Ah, si seulement il nous restait un peu de force au cœur, pensait le grand maître. À 20 ans, il eût sauté sur un soldat, lui eût arraché sa pique et eût tenté de s'échapper, ou bien se fût battu sur place jusqu'à la mort. Derrière lui, le frère visiteur marmonnait entre ses dents cassées. « Ils ne nous condamneront pas. Je peux pas croire qu'ils nous condamnent. Nous ne sommes plus dangereux. » Et le commandeur d'Aquitaine, émergeant de son hébétude, disait « C'est bonne chose de sortir. C'est bonne chose de respirer l'air frais, n'est-ce pas, mon frère ?» Le précepteur de Normandie toucha le bras du grand maître. « Messire, mon frère, dit-il à voix basse, je vois des gens pleurer dans cette foule et d'autres faire le signe de croix. Nous ne sommes point seuls dans notre calvaire. » « Ces gens-là peuvent nous plaindre, mais ils ne peuvent rien pour nous sauver, répondit Jacques de Molay. Ce sont d'autres visages que je cherche. » Le précepteur comprit l'espérance ultime, insensée à laquelle le grand maître se raccrochait. Instinctivement, il se mit lui aussi à scruter la multitude. Car parmi les 15 000 chevaliers du Temple, un nombre appréciable avait échappé aux arrestations de 1307. Les uns s'étaient réfugiés dans les couvents, d'autres s'étaient défroqués et vivaient clandestins dans les campagnes ou les villes. D'autres encore avaient gagné l'Espagne, où le roi d'Aragon, refusant d'obéir aux injonctions du roi de France et du pape, avait laissé aux Templiers leur commanderie et fondé avec eux un nouvel ordre. Il y avait ceux également que certains tribunaux relativement cléments avaient confiés à la garde des Hospitaliers. Beaucoup de ces anciens chevaliers, demeurés en liaison, avaient constitué une sorte de réseau secret. Et Jacques de Molay se disait que peut-être un complot s'était-il monté. Peut-être qu'en un point du parcours, au coin de la rue des Blancs-Manteaux ou de la rue de la Bretonnerie ou du cloître Saint-Méry, un groupe d'hommes allait surgir et, sortant des armes de dessous leurs cottes, fondre sur les archers, tandis que d'autres conjurés postés aux fenêtres lanceraient des projectiles. Avec une charrette poussée en travers de la chaussée, on pouvait bloquer la voie et compléter la panique. Et pourquoi nos anciens frères feraient-ils cela, pensa Molay. Pour délivrer leur grand maître qui les a trahis, qui a renié l'ordre, qui a cédé aux tortures. Pourtant, il s'obstinait à observer la foule, le plus loin qu'il pouvait, et il n'apercevait que des pères de famille qui avaient hissé leurs petits-enfants sur leurs épaules, des enfants qui, plus tard, quand on prononcerait devant eux le nom de Templiers, ne se souviendraient que de 4 vieillards barbus et grelottants, encadrés de gendarmes comme des malfaiteurs publics. Le visiteur général continuait de parler tout seul, en chuintant, et le héros de Saint-Jean d'Acre de répéter qu'il faisait bon se promener matin. Le grand maître sentit se former en lui une de ces colères à demi démentes qui le saisissaient si souvent dans sa prison et le faisaient hurler en frappant les murs. Il allait sûrement accomplir quelque chose de violent et de terrible, il ne savait quoi, mais il avait besoin de l'accomplir. Il acceptait sa mort, presque comme une délivrance, mais il n'acceptait pas de mourir injustement, ni de mourir déshonoré. La longue habitude de la guerre remuait une dernière fois son vieux sang. Il voulait mourir en se battant. Il chercha la main de Geoffroy de Charnay, son ami, son compagnon, le dernier homme fort qu'il eut à côté de lui. Et il étreignit cette main. Le précepteur de Normandie vit sur les tempes creusées du grand maître les artères qui se gonflaient comme des couleuvres bleues. Le cortège atteignait le pont Notre-Dame.